Vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 20. Luc 17, verset 20. Luc 17 et verset 20. Voilà, l'évangile de Luc, au chapitre 17 et le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et si on continue la lecture, ça serait intéressant de voir ce que Jésus va dénoncer, et nous le vivons aujourd'hui. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Et c'est étonnant de voir combien de chrétiens courent d'église en église pour chercher un peu plus Jésus, ou d'événement à d'événement, ou de site internet en site internet pour Jésus, pour trouver un peu plus Jésus. C'est pas vrai? Bah si. Si. Pourtant, Jésus dira, n'y allez pas. Ne faites pas ça. Ne courez pas. Ne courez pas après ceux qui disent, Jésus est là, l'onction est là, Dieu est là. Là-bas, non, c'est pas bien parce que ici, c'est mieux parce que Dieu est là. Jésus dira cette parole, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est une parole très forte et très intéressante à étudier parce que je suis quasiment certain qu'on la comprend pas tous correctement. Si je vous disais, mais comment vous la comprenez cette affirmation? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je pense que beaucoup, si on faisait un devoir surprise interro, expliquez ce que vous comprenez. Beaucoup diraient, ben oui, le royaume était au milieu d'eux parce que Jésus était au milieu d'eux. Jésus physiquement, elle incarnation, 3 ans et demi. Mais c'est pas ça. Et d'autres versions l'ont traduit mieux en complétant. Notamment la parole de vous, la parole de vie. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai dit vous. C'est le lapsus révélateur que j'ai dit trop tôt. Le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire comme un événement extérieur que l'on pourrait observer, car le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous, nous. On ne parle pas de Jésus physiquement, humainement, fils de l'homme au milieu d'eux, mais Jésus dit le royaume de Dieu est déjà là, en vous, en vous. Le royaume de Dieu commencera toujours dans les cœurs. C'est pour ça que Jésus dira, mais arrêtez de courir d'église en église. Non, c'est moi qui le rajoute. Arrêtez de courir après événement, de site en site internet, après tel ou tel pasteur, parce que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, doit commencer, premièrement, ici. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Eh ouais. Alors pourquoi on court après les églises? Pas vous. Vous êtes bien. Dis-moi les présents. Pourquoi on court après des choses de Dieu alors que Jésus nous dit que le principal c'est le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu et il est là. C'est pas un événement spectaculaire, c'est pas une structure visible terrestre. C'est dans le cœur que les choses vont se faire. Le royaume de Dieu, si on devait un peu paraphraser Jésus, nous dirions qu'il est le royaume de Dieu, il est spirituel. Ouais, c'est ça, hein. Dans le cœur, mais c'est spirituel, c'est intérieur, c'est en fait c'est très personnel. C'est personnel le royaume de Dieu. C'est une action du Saint-Esprit qui nous transforme dès que nous le recevons, le Saint-Esprit. Et pourquoi il nous transforme? Pour que Jésus puisse s'installer. Il est tellement saint qu'au milieu de nos péchés, c'est pas possible. Là, on va falloir faire le ménage. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces paraboles qui montrent que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, au début, c'est toujours petit. C'est petit, mais c'est appelé à grandir. Et on comprend bien qu'on ne parle pas d'une église physique, quoi qu'on pourrait, oui, par extension, oui, d'accord, mais ça commence là. Et c'est dans nos cœurs que ça doit grandir, 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 grandir. C'est Jésus qui doit prendre de plus en plus de place. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, en nous transformant de plus en plus. Nous, on diminue notre chair. Et l'Esprit de Jésus agrandit le royaume de Dieu dans nos cœurs. C'est ce que Jésus dira quand il a eu cette conversation avec cette femme, la Samaritaine. Je vais vous lire le texte dans une version, la française fondamentale. Regardez comment les choses ont été traduite, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père, mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Beaucoup plus connu traditionnellement par ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Mais cette version nous montre que cette adoration ne peut être suscitée que par une action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Tout vient du cœur. Tout. Le règne de Dieu ne peut s'installer, s'établir à nous et ne grandir qu'à nous qu'au travers d'une disposition de cœur favorable à l'action du Seigneur. Vous comprenez? Que nos résistances empêchent le royaume de Dieu de grandir. Une disposition de cœur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. On connaît le chant. C'est une prière à la base, hein. La prière de David. Et si on lisait la suite du texte, renouvelle à moi un esprit bien disposé, il dira juste après, ne me retire pas ton esprit. Parce que tout est lié. Le royaume de Dieu ne peut se faire qu'au travers d'une action de l'esprit. Luc 6 nous dira, l'homme bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici une autre traduction. L'homme qui est bon fait le bien. En fait, il faudrait comprendre dans la pensée de Jésus l'homme qui est spirituel fait le bien, car il puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Mais celui qui est mauvais, en fait le chrétien charnel, vous savez, qui tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur, qui en déborde de son trop-plein. Est-ce qu'un chrétien, je vais le paraphraser, vous allez peut-être mieux comprendre, est-ce qu'un chrétien rempli de l'amour de Dieu, mais ça déborde, hein, peut-il parler à mal de quelqu'un? Je parle même pas des chrétiens, il parle mal des chrétiens, mais de quelqu'un. Il peut pas. Parce que l'esprit en lui travaille, le fruit de l'esprit se développe, le royaume de Dieu se développe. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Peut-il parler à mal alors qu'il est rempli d'amour? Non. Oui, mais prenez maintenant le chrétien charnel. S'il est charnel, c'est qu'il n'est pas spirituel. Il peut connaître les choses de Dieu, mais son cœur est tellement rempli de ces choses, amertume, rancœur, colère, toutes ces choses qui sont fruits charnels, c'est-à-dire humains. Peut-il aimer l'autre? Non. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que l'amour de Dieu vient de Dieu. Pas de nous. Ça vient de Dieu. Et finalement, nos paroles, nos attitudes, nos comportements devront refléter que l'expression du royaume que nous avons tout au fond de notre cœur. Soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est notre royaume. Je ne vais pas y donner le nom, mais on va l'appeler le royaume de Satan. Oh pasteur, vous êtes dur. Écoutez ce que dit Jacques. Jacques nous dit, par la langue nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous vantez pas ou ne le répandez pas. Et ne mentez pas contre la vérité, ne vous mentez pas vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Jean dira, tu dis aimer Dieu, mais tu peux pas supporter l'autre, tu es un menteur. Tu ne vois même pas que tu es en train de te tromper toi-même. C'est ce que Jacques dira. Cette sagesse, ce royaume, on va le dire comme ça, ce royaume, cette sagesse, n'est point celui qui vient d'en haut. Mais il est terrestre, charnel, et le mot est lâché, diabolique. Le royaume de Satan, c'est le royaume de la chair. Ce qui est humain, ce qui est terrestre, ce qui est naturel. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Par contre, la sagesse d'en haut, on va dire le royaume d'en haut, est premièrement pur, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est le fruit de l'esprit. On a tous un royaume dans notre cœur, tous, plus ou moins développé. Mais si Jésus nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que ce soit le bon royaume qui se construise, celui de Dieu. Et comment sait-on que le royaume de Dieu est bien là? C'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est un comportement, ce sont des paroles, des propos, une façon de penser, une mentalité, c'est une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Ceci ne veut pas dire que des fois, il y a comme une sorte de bataille entre les deux royaumes. Tantôt le royaume de Dieu prend de la place et le royaume de Satan... Mais tantôt c'est le royaume de Satan qui reprend de la place et le royaume de Dieu, lui, il rediminue. C'est un tiraillement constant, hein. Constant. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Connaissez le texte? Et ça a donné une prière. Oh, la réciter n'a pas de sens. La connaître par cœur, bon, oui, pourquoi pas. Mais la vivre, c'est quand même mieux. Vive le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et voilà cette phrase, que ton règne, que ton royaume vienne. Sur la terre, trop vaste, dans mon cœur. Que ton royaume, que ton règne vienne dans mon cœur, que ta volonté soit faite. Comme dans le ciel, c'est accompli. C'est une prière que Jésus a enseignée. Mais pour nous, ça doit devenir une façon de vivre. Quel royaume gouverne ma vie? Est-ce le royaume de Satan, diabolique, charnel, humain, terrestre? On parle pas de démons, on parle pas de ça. On parle des choses naturelles, le fruit de la chair. Ou le règne de Dieu, les choses de l'esprit, le fruit de l'esprit. Que ton règne vienne. Je crois qu'on doit vraiment s'approprier cette prière. Que ton règne vienne. Je veux que ton royaume vienne toujours plus dans ma vie. Vous le souhaitez? Et alors c'est le cas? Tout vient de la sincérité. La sincérité fera la différence. Parce qu'on peut tous faire cette prière. Je pourrais même vous faire réciter le Notre Père, du moins la partie la plus répétée après moi, que ton règne vienne. Vous allez tous le faire parce que vous êtes obéissants, mais ce qui va faire la différence entre l'exaucement et le plat absolu, c'est la sincérité du cœur. Si la prière qui est faite n'est pas sincère vraiment devant Dieu, je veux vraiment et réellement et sincèrement que ton règne vienne dans ma vie, si la sincérité n'est pas là, ça, rien ne se passera, rien. Mais si le cœur fais cette prière comme un cri du cœur, que ton royaume vienne, vraiment de tout votre cœur, le Saint-Esprit ne manquera pas de trouver le chemin de votre cœur pour commencer le travail de transformation. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dénoncera parfois des situations de ces gens qui sont toujours en train de prier, 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 prier. Ils reçoivent jamais parce qu'au fond, leur cœur, il prendra cette image, ils sont comme des nuées. En fait, il n'y a rien dedans. C'est vide. Oh, ils font de belles choses. Hein. Oh, ils prétendent, ils aspirent. Ils aspirent à de grandes choses, mais même pour l'œuvre de Dieu. Et, voilà, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup, beaucoup. Mais au fond, l'essentiel, ils l'ont pas. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Jérémie dira, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout votre cœur. Et Matthieu 6, cherchez premièrement. Bah oui, voilà. Ça y est, on y est. Le royaume de Dieu, premièrement. C'est ça qu'on recherche. Et sa justice, c'est-à-dire les valeurs qui vont avec. Cherchez premièrement. Une autre parole dira le royaume de Dieu, plutôt ce sont les violents qui s'en emparent. Cette violence, cette sincérité, tel un cri, je veux que ton royaume s'établisse en moi un peu plus, parce que je veux plus que ma chair prenne le contrôle. Je veux ton royaume. Je veux de ton royaume. Alors qu'est-ce qui se passe quand vraiment la sincérité est là? Je le disais, bien sûr que le Saint-Esprit trouve le chemin de nos cœurs et le travail commence. Je veux dire, le chantier va commencer. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben il va creuser les fondations. Aïe, 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 ça fait mal. On voudrait déjà que le Seigneur mette le clocher, tout ça, la belle croix. Non, non, il faudra avoir les fondations, on va creuser. Il faut enlever ces choses, ces racines. Ces racines qui sont là, qui sont charnelles. Il y a tout un travail que le Saint-Esprit ne peut faire que si on le laisse faire. Nous avons dans la Bible un récit qui est très intéressant. Je vais vous le lire. C'est cette femme qui adorait déjà Dieu à sa façon. Peut-être une bonne façon, mais il lui manquait quelque chose et ça va lui être donné. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était sincère. C'est dans Acte 16, verset 11, vous lisez dans la semeur, nous nous sommes dira l'apôtre Paul, nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Vous connaissez le récit, hein ? Vous voyez de qui on va parler. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie. Originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Ah, donc elle était déjà quand même bien disposée. Elle écoutait et là, voilà ce qu'il faudrait que le Saint-Esprit puisse faire. Et le Seigneur ouvrit son cœur. Elle est là pourtant en train d'adorer. Elle est là déjà en train de vivre des moments que nous croyons sincères. Parce que sinon le Saint-Esprit n'aurait pas pu faire à la suite. Le Seigneur lui ouvre le cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Quand on cherche réellement le royaume de Dieu de tout son cœur, et avec sincérité, avec honnêteté, avec vérité, je crois que le Saint-Esprit, Dieu, dispose nos cœurs à ce que l'œuvre de Dieu se fasse toujours un peu plus. Parce qu'il n'y a rien de naturel à ce que le royaume de Dieu s'établisse en nous. Et non, parce que c'est spirituel. On peut essayer de bâtir le royaume de Dieu d'une manière très charnelle. Ça s'appelle la religion, la religiosité, le légalisme, toutes ces choses. Mais ça, c'est tordu. L'œuvre de Dieu ne peut être que spirituelle. Donc, elle ne peut pas venir de nous. C'est forcément quelqu'un d'extérieur qui va la faire à nous. Le Saint-Esprit qui va disposer notre cœur parce qu'on est sincère à le vouloir. Et c'est lui qui, après les fondations, pierre après pierre, va bâtir le royaume de Dieu, qui va s'élever doucement. Oh, pas comme ça. Doucement, doucement, doucement. Et de plus en plus. Mais cette disposition de cœur, ça vient pas de nous. Ça vient pas de nous. Le royaume de Dieu, c'est pas nous, c'est Dieu à nous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. On peut presque s'étourdir en faisant des choses pour Dieu, mais bon, au final, si ça vient pas de Dieu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut d'abord que le Seigneur construise son royaume pour que, après, les choses s'établissent d'elles-mêmes par le Saint-Esprit ou par Jésus au milieu de nous qui règne. Qui règne. Alors dans quel but le Saint-Esprit va disposer, Dieu va disposer notre cœur? Quel est le but? Pourquoi le Seigneur veut-il disposer nos cœurs pour que ce royaume grandisse toujours un peu plus? Est-ce que c'est pour un bien-être personnel? Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à moi parce que je suis triste. Très égoïste. On peut comprendre. Mais est-ce que c'est l'objectif que le Seigneur vise? Est-ce que le Seigneur vise tout simplement un bien-être personnel ou une satisfaction spirituelle? Vous savez, on a plein de doctrines bizarres qui circulent en ce moment. J'en dénonçais quelques-unes, je crois, mardi, de cette prédicatrice. Ça commence par Joyce et ça finit par hier, qui vous dit que avec le Seigneur, vous allez vous accomplir vous-même. Le Seigneur va réaliser vos rêves. Non mais arrêtez, mais c'est pas ça. C'est ça l'évangile? L'accomplissement de soi au travers de Jésus? Je crois pas. Tous les évangiles nous montrent que le but du salut, c'est que Jésus soit glorifié à nous. Pas que nous nous accomplissions, mais que Jésus s'accomplisse à nous. Ouais? Alors je sais que ça défrise un peu, parce que bon, Joyce Meyer, elle est partout, hein. Sur les sites, les bouquins, les livres, peut-être que vous en lisez. Alors des fois, il y a des choses bonnes, c'est vrai, mais tout n'est pas bon. Attention, attention. l'évangile, la source de l'évangile, c'est si tu veux que Christ grandisse en toi, tu dois mourir. Là, vos rêves, vous les abandonnez. Vos aspirations, vous les abandonnez. Vos désirs, vous les laissez de côté. Et vous faites la volonté de Dieu. Et ça, c'est un combat qui dure toute la vie. On n'est plus dans l'accomplissement de soi, pour un bien-être, pour une satisfaction. Et le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous amener un bien-être spirituel, mais que l'œuvre de Jésus, que la personne de Jésus se façonne à nous, que nous devenions de plus en plus à l'image de Jésus. Bien sûr que ça nous fera du bien, mais le but, c'est Jésus, ce n'est pas nous. Le salut n'est pas centré sur nous, il est centré sur Jésus. Ne faisons pas de Jésus le moyen d'arriver à un but. Non, Jésus est le but. Et la mort est le moyen. Voyez les valeurs, comment elles ont été un peu détournées. Que ton règne vienne dans ma vie pour que l'esprit me transforme de plus en plus à l'image de Jésus. Voilà l'enseignement de Paul. L'enseignement de Paul. Et ça, ça doit passer par une disposition de cœur à le rechercher, à le vouloir, et surtout à se laisser faire dans les mains du Saint-Esprit. Se laisser faire. Le Saint-Esprit abondera dans ce sens de nous transformer, mais il peut le faire que si nous le laissons faire. Il y a ces images dans l'Ancien Testament. Est-ce que le vase peut-il contester le potier qui le façonne? Non. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Quand le Seigneur permet des situations qui nous, contrarient, c'est que certainement ça va nous façonner un petit peu quelque part. Mais est-ce qu'on n'est pas les premiers à se plaindre? Et Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette difficulté? Ben oui, mais t'es en transformation. Comprenons que le salut, c'est pas un bonheur absolu où Dieu va vous bénir de telle sorte que tout ira bien tout le temps. Mais ben, où serait la transformation? Où serait le feu de la fournaise qui est pur? Mais là où Dieu est bon, c'est qu'il y va tout doucement. Il connaît l'argile quand même. Elle est fragile. Il y va très doucement, très doucement. Les mains du Seigneur sont douces. Le tour, il va doucement. Oh, des fois, il accélère un peu. Mais il sait aussi ralentir. Il sait s'y prendre, le Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur va toujours disposer nos cœurs à nous laisser faire. Parce qu'à un moment donné, si on résiste, le tour va s'arrêter et l'œuvre de Dieu stagner à nous. Voilà pourquoi il y va doucement. Mais sûrement. Voilà pourquoi des chrétiens grandissent et d'autres grandissent un peu moins. Pourquoi d'autres grandissent plus vite et d'autres, il leur faut des années? Parce que nous sommes toujours un petit peu en conflit avec Dieu. Parce qu'on ne se laisse pas faire. Et quand je dis on ne se laisse pas faire, c'est-à-dire les situations. Dieu se sert très souvent des situations de la vie de tous les jours pour nous façonner. Nous, souvent, on voudrait que Dieu nous parle d'une manière très directe. À la limite, on lui demanderait « Envoie-nous un ange qui nous parle dès le matin. Donne-moi la liste des choses à faire du matin jusqu'au soir. » C'est pas comme ça que ça marche. Oh, Dieu pourrait se révéler d'une manière très directe, un songe, un rêve, une vision, un don spirituel, une prédication. Dieu peut le faire, une parole, un frère. Mais bien souvent, le Seigneur nous parle tout simplement au travers des circonstances de la vie. Parfois, Dieu est si naturel qu'on le voit même pas. Et c'est ces situations où on a du mal à discerner la main de Dieu, qui les dirige et qui les contrôle. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que le hasard n'existe pas. On est tous d'accord pour dire que tout ce qui nous arrive, c'est permis de Dieu. Oui, mais quand les choses nous arrivent, on les rejette, comme si c'était le diable qui nous attaquait. Ben non. Arrêtons de donner au diable une marge de manœuvre qu'il n'a pas. Il n'a rien du tout, le diable. Il ne fera que ce que Dieu lui dira de faire. Donc celui qui est au contrôle, c'est Dieu. Donc s'il m'arrive une situation contrariante, Ah, et si c'était Dieu qui voulait me parler? Non? Et si Dieu voulait me parler, alors peut-être que ça serait bien qu'au lieu de mener un faux combat, « Seigneur, lève-moi cette contrariété, non, pose-toi, mets-toi à genoux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» N'est-il pas dit que Dieu fait le jour du bonheur et le jour du malheur? Qui fait ça? Pas le diable, hein? C'est Dieu. Et Dieu nous façonne parfois tout simplement par les situations de la vie, votre quotidien. Dieu le connaît. Dieu est tous les jours avec vous, hein? Et Dieu va se servir de votre quotidien pour vous parler. Mais on a du mal à percevoir la main de Dieu dans les choses qui nous contrarient. On ne le voit pas. Oh, quand les choses vont bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour, je marchais en priant. Oh, ça m'arrive de temps en temps. Vous allez voir. Pas de prier, mais c'est la suite. Je marchais, je priais. Les yeux ouverts, toujours, hein, parce que dans la rue, je marche. Et là, voilà que mes yeux tombent sur un billet de 10 euros. Premier réflexe. Merci Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Personne aux alentours. Je serais allé voir la personne. Hein. Bien sûr, je serais allé voir la personne. Mais bon, il n'y a personne à qui je le donne, le billet. Je vais le laisser là. C'est dommage. Merci Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Seigneur, tu avais préparé d'avance cette rencontre avec ce billet. Et voyez comme quoi ça, on l'accepte. Merci Seigneur. Et ça nous réjouit pour toute la journée. Hein. Bon, c'est 10 euros. Mais ça nous réjouit parce que un clin d'œil de Dieu. Oui, mais attendez. On passe dans un autre domaine. Et voilà qu'aujourd'hui, tiens, on m'annonce, le médecin m'annonce à Monsieur Cavaillé. Ça ne va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire. Voilà ce que vous avez. Tac, tac. Oh, mais c'est du sérieux, monsieur Cavaillé. Là, merci Seigneur, ça n'existe plus. Et pourtant, est-ce que Dieu ne parle pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Oh, bien sûr, il y a des situations où il y a des combats particuliers, mais... Pas des choses naturelles de la vie de tous les jours où les choses qui nous contrarient sont parfois permises de Dieu tout simplement parce qu'il veut nous parler, nous interpeller. Vous croyez que Abraham a dit « Alléluia, gloire à Dieu » quand Dieu lui a dit « Tu prends ton fils et tu me le donnes ». Vous croyez qu'il est parti avec des cantiques là, avec la guitare, là, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Certainement pas, pendant 3 jours. Le combat intérieur. Et il y va, hein. Il y va. Après qu'elle est descendue de la montagne, oh certainement que oui, gloire à Dieu, parce que mon fils est là, mais certainement. Mais comprenez que mais même les choses les plus négatives qui peuvent nous arriver, c'est pas forcément le diable, Dieu qui nous parle. Parce que Dieu veut nous dire quelque chose qui va nous façonner et nous transformer. C'est pour ça qu'on a besoin, quelles que soient les situations qui nous arrivent et les plus pénibles, de savoir avant toute réaction, et de rentrer dans des faux combats qui n'ont pas lieu d'être. Hein. « Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Ah, attends, Dieu veut te parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire » N'est-il pas dit que le Seigneur nous conduira dans le désert, et là, il te parlera? C'est écrit dans le prophète Osée. Tout ça pour vous dire que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, plus il va grandir, en fait, le Saint-Esprit va nous apprendre peut-être la plus grande leçon qu'on a besoin d'assimiler, et c'est la plus difficile parce qu'on est tous pareils, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire apprendre à accepter les situations de la vie. Ça, c'est pas naturel. Apprendre à accepter les situations de la vie, pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de toutes les situations qui m'arrivent. Et si Dieu permet telle contrariété, c'est que certainement Dieu qui a prévu un enseignement très particulier. Regardez Job. Pas facile pour Job. Et pourtant, est-il à se plaindre contre Dieu? Non. Est-il à demander le pourquoi, du comment et du jusqu'à quand? Non. Oh, bien sûr, il est mal. Il est très mal. Et voyez comment les choses s'arrangent d'elles-mêmes quand la leçon est reçue. Dieu bénit. il a été enseignable. Je crois que même Jésus, la Bible nous dit que Jésus a dû apprendre l'obéissance. Et ce n'était pas par une prédication d'un pasteur, mais par les choses, les situations de la vie, de sa vie, qu'il a endurées. Il aurait pu s'opposer à tout ce qui lui est arrivé. À un moment donné, il dira, mais vous ne croyez pas que je peux invoquer le Père, et il m'envoie des anges, et ça y est, c'est fini, je suis libéré. La tentation d'éviter les situations difficiles et douloureuses. Je prie le Père et ça y est, c'est réglé. Mais est-ce qu'on ne fait pas pareil? Quand les bricoles nous tombent dessus, regardez le réflexe qu'on a. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Eh, matin, mais si Dieu permet les bricoles pour te parler, est-ce que tu ne dois pas apprendre quelque chose là? L'obéissance par les choses que tu vas souffrir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, dira le texte. En fait, littéralement, c'est ayez en vous la même disposition de cœur. Pas les sentiments, la même disposition de cœur. Et ça vient du Saint-Esprit qui dispose nos cœurs. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant, disposition de cœur, à accepter, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux dira, Christ a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. On est à la même école. Nous devons apprendre l'obéissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous désobéissants. Et le royaume de Dieu, c'est que Jésus, bien sûr, soit façonné à nous, mais que nous comprenions que le plus important, c'est que nous vivions la volonté de Dieu. Donc quand je comprends que c'est la volonté de Dieu qu'il faut faire, je dois apprendre à lui obéir. C'est plus ma volonté à moi, mais c'est sa volonté à lui. Et ça, c'est toute une œuvre de transformation. Parce que parfois Dieu va nous demander des choses qui ne correspondent pas au désir de nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut s'enlever de la tête ces clichés évangéliques. Dieu veut ton bonheur, tout ce qu'il permettra sera en ta faveur. C'est faux. C'est faux. L'obéissance ne peut se façonner à nous que quand les choses nous contrarient. Ben oui. Non? Jésus a appris ces choses-là. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la tienne. Job, ah, il le dira quand même aussi. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ça s'apprend. Et c'est les circonstances de la vie. Oh, c'est pas quelque chose qui s'apprend au travers de deux, trois prédications. Ça, c'est de la théorie. Ça s'apprend au travers des circonstances de la vie qui vont aller parfois en vous contrariant de plus en plus. L'obéissance. Ah, Seigneur, tu permets ça. Ok. Je ne vais pas lutter dans la prière parce que certainement que tu te sers de ça pour me dire quelque chose. Non? Le règne de Dieu en nous va nous amener à être de plus en plus obéissants. Mais comme ce n'est pas dans notre nature, le Seigneur va y aller doucement, doucement. De la petite contrariété à la moyenne, à la grande. Ah, très grande. Mais au final, on devient de plus en plus obéissant. Notre nature charnelle, elle meurt de plus en plus. Et c'est le royaume de Dieu qui grandit de plus en plus. Il s'est humilié, dit la parole de Dieu, jusqu'à la mort. C'est interpellant ce mot, jusqu'à. Parce qu'on a tous notre jusqu'à. On l'a tous. Jusqu'à. Un seuil d'acceptation et de tolérance à l'obéissance, très variable selon nos parcours. Mais Jésus, lui, c'était obéissant jusqu'à la mort. C'est parfait. Mais nous, jusqu'où va notre jusqu'à pour obéir à Dieu? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obéir à Dieu? C'est très variable, hein. Certains, oh, mon obéissance s'arrête à je lis la Bible tous les jours. M'en demandez pas plus. D'autres, ça sera, oh, moi, je vais à l'église tous les dimanches. M'en demandez pas plus. D'autres seront, oui, moi, je veux te consacrer ma vie. S'il y a quelque chose à faire, je le fais. Il va jusque-là. On a tous un jusqu'à variable. Mais l'exemple par excellence nous montre jusqu'à la mort. Mais ça, c'est pas naturel. Il faut que le Saint-Esprit nous façonne pour que notre jusqu'à repousse ses limites et que le royaume de Dieu grandisse. On est tous d'accord pour dire que si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Mais c'est étonnant, on a mis des jusqu'à. Oh Seigneur, je veux bien te donner toute ma vie, mais ça ne me le demande pas. Ne me demande pas d'aller témoigner à telle personne. Je peux pas. Ne me demande pas de venir à toutes les réunions. Je peux pas. Et pourtant, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. On a tous des jusqu'à. C'est normal, c'est humain, c'est charnel. Mais le Saint-Esprit nous transforme et nos jusqu'à grandissent. Toujours un peu plus. Et heureusement, c'est ça les progrès. Ça grandit de plus en plus. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui ont été confrontés à des décisions divines, ça n'allait pas dans leur sens. C'est pour ça qu'il faut sortir de ces clichés. Oh, Dieu veut mon bonheur, ça sera toujours parfait. J'aurai que des bénédictions. Dans le sens, donne-moi. Donnez un exemple, Pierre. Un jour, mais c'est juste après que Jésus lui ait demandé, m'aimes-tu? Et Jésus va le regarder et lui dire, tu sais, Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Ça, c'était ta vie autrefois. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les bras, un autre te nouera la ceinture et te mènera où tu voudras pas aller. Ah. Et Jésus était en train de lui montrer le chemin par lequel il allait passer pour faire la volonté de Dieu. C'est étonnant, hein, que Dieu nous demande des choses qu'on ne veut pas. Non? Ça vous a jamais surpris? Ça vous est jamais arrivé? Ben oui, mais notre vie, elle est à qui? Elle est à Dieu. Et le but, c'est que sa volonté devienne notre volonté. Oui, mais ça va passer par des tiraillements, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Voilà pourquoi le royaume de Dieu doit grandir. Voilà pourquoi notre jusqu'à doit grandir toujours plus, parce que au final, on devrait être prêt à mourir pour le Seigneur. Mais on en est très loin. On en est très loin. Parce que le côté humain est toujours un peu présent à nous. Nos craintes, nos peurs luttent finalement contre l'action du Saint-Esprit. Jonas, on écrirait un livre sur lui. Hein. Le Seigneur qui lui dit, Jonas, va là-bas. Non, même pas, n'y compte pas, certainement pas, parce que tu vas les bénir en plus. Je vais être l'instrument de la bénédiction. Non, je vais là-bas. Eh bien, il a tenté l'Espagne. Il a tenté, parce que le poisson est venu. Et là, il a appris l'obéissance. Il n'y a pas de lieu pour apprendre l'obéissance. Hein. Dieu est surprenant. Et c'est quand il a appris l'obéissance et qu'il a repassé dans son cœur les vœux, les décisions qu'il avait choisies de servir Dieu, que le Seigneur lui donne une nouvelle chance. Ah ok, ben vas-y. Tu dis avoir changé d'avis? Ben vas-y. Il est allé. Bon, après, on connaît le récit, hein, c'est quand même pas joyeux, tout ça. Mais il l'a fait. Un autre exemple qui est difficile, parce que quand même, on se dit, mais Seigneur, t'as pas de cœur. Moïse. Un jour, le peuple est dans la contestation, rébellion. On a soif. Moïse, désemparé, est sur le point d'être lapidé. Et Dieu donne la solution. Voici un rocher. Parle au rocher. Parle. Et Moïse, il était un peu quand même un peu excédé de la situation, de voir ce peuple toujours à murmurer. Il a pris le bâton et il a frappé le rocher. Et là, le Seigneur va lui dire, parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom aux yeux de ce peuple rebelle, tu verras le pays, mais tu n'y rentreras pas. Vous croyez que ça a fait plaisir à Moïse? Et on retrouve plus tard Moïse en train d'essayer. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain, pour aller dans le pays, pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté. Pourtant, il sait très bien que Dieu lui a dit non. Mais il tente. Il tente. Et là, l'Éternel s'était mis en colère contre lui. À cause de vous, dira-t-il, il ne vous l'accordera pas. Et Dieu lui dira, assez, ne me parle plus de cette affaire. Ouf. Là, vaut mieux prendre l'obéissance de suite. Mais notez que, voilà, l'apôtre Paul, un jour, avec ses collègues, ils veulent aller évangéliser la Mysie. C'est bien. Dieu leur dit, non, même pas. Mais Dieu le dit même pas. C'est les situations qui s'opposent à l'évangélisation. Et là, ils en déduisent qu'il faut aller ailleurs, tout simplement. Après, il y aura le songe et le rêve du Macédonien. Mais c'est dans les choses négatives que la volonté de Dieu s'est manifestée. Et quand l'apôtre Paul va prier, « Oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi !» Et Dieu dit lui dire, « Arrête, arrête, tu ne seras pas guéri. » Vous connaissez le texte, hein ? Mais tout ça, ça apprend quoi à tous ces hommes, quoi ? Il y en a d'autres, hein ? Ça apprend la même chose, l'obéissance. À quoi ? À la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu... Des situations vont vous arriver, ça va absolument pas aller dans le sens que vous auriez pensé que Dieu vous amènerait. Ça n'enlève rien à l'amour de Dieu, ça n'enlève rien à la bonté de Dieu, ça n'enlève rien à Dieu, si ce n'est que Dieu se sert de tout pour nous façonner. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand tout va bien, on n'est pas enseignable. Quand tout va bien, Dieu peut pas nous façonner, il faut la contrariété. Les choses négatives vont faire ressortir le mauvais fond, la chair. Et c'est là qu'on peut enfin traiter le problème. Je dirais que dans la notion d'obéissance, et je terminerai avec ce point-là, il y a trois degrés d'obéissance. Trois degrés. Le premier, c'est l'obéissance volontaire. Je reviens à mon billet. Oh, 10 euros. Merci Seigneur. Très bien, parfait. La prochaine fois, 50. Et on rentre pleinement dans la volonté de Dieu qui a permis que je trouve un billet. Il n'y a pas de souci. C'est l'obéissance volontaire, c'est-à-dire quand Dieu vous fait rentrer dans des situations qui vont à votre avantage. Et Dieu permet ces choses-là aussi. Ça nous bénit, ça nous conforte, ça nous console, ça nous rassure. Ça. Dieu fait ces choses-là. Je pense que si Dieu vous disait « Aujourd'hui, je te guéris », vous n'allez pas vous opposer à cette parole. « Non, Seigneur, je veux pas. Ne guéris pas. » Non. Seigneur, merci. Donc, il y a cette obéissance à accepter les situations que Dieu permet, mais d'une manière très volontaire. C'est de tout notre cœur, on accepte ces situations parce qu'elles vont à notre avantage. Et tant mieux, mais c'est le premier niveau. On est tous d'accord là-dessus. Va venir le deuxième niveau que, et là on va l'appeler, on va lui donner un autre nom, la soumission. C'est plus pareil. Se soumettre aux situations que Dieu permet dans la vie, dans votre vie, mais qui vont à l'encontre totale de ce que vous avez dans votre cœur. Je pense à Naaman. Bon, ok, je vais aller voir le pasteur. Il va certainement faire un truc là. Et il va prier et je vais être guéri. Ben, le pasteur, il se déplace pas. Et le pasteur, il envoie son serviteur, lui dit, bon, tu vas être guéri, ok, voilà ce que te dit le pasteur, va te tremper cette fois. Naaman, il n'était pas content, hein. Pourtant, ça l'aurait béni. Mais il n'est pas content, parce que ce que on lui demande va à l'encontre de ce qu'il s'était imaginé. Et ça le reprend un peu de rebours ce poil, et il n'aime pas ça. Et il faudra tous ses compagnons qui essaient de le persuader que, mais si, faut le faire. Et bon, il va se laisser fléchir. Mais combien de fois nous avons lutté contre les circonstances que Dieu a permis dans nos vies, pourtant elles venaient de Dieu. Mais on a lutté parce que ça n'allait pas dans notre sens. Vous savez, quand Dieu vous ferme une porte, au début, on le prend très mal. Parce qu'on voulait tellement qu'elle s'ouvre, cette porte. Oui, mais Dieu, lui, il voyait. Peut-être que derrière cette porte, il y avait des choses pas bonnes. Donc il l'a fermée, sans te dire pourquoi. Toi, tu dois te soumettre et accepter que les choix de Dieu sont meilleurs que les tiens. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre aux situations que Dieu permet. Se soumettre, accepter. C'est pas naturel. Mais ça s'apprend. Et Dieu va nous l'apprendre. Dieu va nous l'apprendre. Alors après, oui, c'est sûr, on peut rentrer, on peut accepter des choses avec un cœur un peu contraint et forcé. Mais c'est tout un cheminement. Tout un cheminement. J'imagine Naaman en train de se plonger dans ce Jourdain où il n'était pas content. Il n'était pas content. Il a fallu que le 7e plongeon, il puisse constater que là, ça avait marché et son amertume, sa colère s'échangeait en joie. Dieu nous façonne. Dieu nous façonne alors que nous sommes en train de lui obéir. Mais au début, c'est toujours à contre-cœur. À contre-cœur qu'on fait, parce que ça ne va pas dans notre sens. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà demandé quelque chose qui vous contrariait, mais réellement. À vous mettre, mais vraiment en colère. Mais puisque c'est ça, Seigneur, je ne viens plus à l'église. Puisque c'est ça, la Bible, c'est fini. Des fois, ça va jusque-là. Bon, après, on apprend l'obéissance, on apprend la soumission. Et les choses changent. En fait, c'est le cœur qui change. C'est pas les situations, c'est le cœur qui change et qui accepte la situation plus facilement. Mais il y a le troisième niveau, qui est de loin le plus remarquable. Jésus l'a accompli parfaitement et nous, nous devons tendre l'obéissance et la soumission, et je l'appellerai, on a déjà parlé en son temps, l'abnégation. L'abnégation. L'abnégation, c'est quoi? Si ce n'est tout simplement faire les choses que Dieu montre, mais plus pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. Et ça, c'est difficile, parce que nous, quand on obéit, c'est toujours à un but. Ok, je fais ça parce que ça va me rapporter ça. Je fais ça parce qu'en retour, tu vas me bénir. C'est normal. Mais l'abnégation, on n'est plus centré sur soi, mais sur la bénédiction sur les autres. Quand Jésus est venu, il a appris l'obéissance jusqu'à l'abnégation. Mais qu'est-ce qu'il en a retiré, lui? La mort. Mais de cette mort, un peuple nombreux serait béni. Serait béni. L'abnégation, c'est quelque chose qui est beau quand elle est là et qui est très long à être façonné. Parce qu'on a tous en nous cachés au fond de nos pensées, des non-dits, non-avoués, des intérêts. On ne le dit pas, ou des fois on n'en est pas conscient, mais on fait toujours un petit peu les choses par intérêt. On a du mal à se l'avouer, mais quelque part. On fait ça en se disant, « Ah, mais si je fais ça... » Le Seigneur me le rendra. Mais l'abnégation, c'est même pas pour Dieu. Dieu a besoin de rien. Mais des frères et sœurs. Je fais ça pour le bien des frères et sœurs. J'accepte cette situation. J'accepte même de perdre mes avantages. Parce que je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. L'apôtre Paul dira, ayez les mêmes sentiments que Jésus. La même disposition de cœur. Jésus s'est dépouillé de tout jusqu'à la mort pour que les autres soient bénis. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter des situations qui vont vraiment, vraiment nous malmener, mais pour le bien des autres? Saint-Esprit, façonne-nous. Que notre jusqu'à, c'est la limite, qu'elle grandisse, parce qu'on est tous un peu centrés sur nous. C'est très humain, mais le règne de Dieu... et spirituel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie Pour Dieu? Pour les autres? Pour les autres? Pour les autres? Je vais... Petite parenthèse. Vraiment, je voudrais honorer. Je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire. Honorer tous ceux qui sont dans le groupe de chant, de louange et de musique. Pour tout le temps qui passe, qu'ils passent. Et c'est des sacrifices. Pour certains, c'est des gros sacrifices. On ne mesure pas. Mais le temps qu'ils passent, non pas pour se faire du bien, mais pour vous faire du bien. Ça, c'est des choses que vous, peut-être, vous ne voyez pas parce que vous êtes assis et le dimanche matin, vous profitez de ce qui se fait là. Et si vous veniez voir derrière le rideau des coulisses tout ce qui se passe, tout ce qui est enduré, tout ce qui est subi, tout ce que nous partageons. Mais là, on n'est pas loin de l'abnégation. Parce que c'est sûr que, ben je pense qu'on aimerait aussi, nous, passer nos samedis en famille. On aimerait passer nos samedis à se promener, à faire brocante, machin, bidule et tout, là. On aimerait aussi, nous, aller s'occuper de nos affaires. Vous savez, quand vous travaillez toute la semaine et que vous n'avez que le week-end pour faire les courses ou les démarches, hein? Et que de tout cela, on le refuse pour le bien de l'Église. Merci Seigneur, du royaume de Dieu qui est dans leur cœur. Alors vous comprenez qu'après, quand on entend des critiques, « Oh, un tel, il chante pas bien, un tel, il joue mal, un tel, il... » Quand même, je crois qu'il y a des limites, il ne faut pas dépasser. Commencer à critiquer presque l'abnégation d'une personne. C'est comme si on disait, Jésus, ok, tu es mort pour nous, mais bon, tu pourrais me bénir un peu plus maintenant. Hein. C'est comme si on lui disait, Seigneur, ok, d'accord, tu es mort, mais bon, en retour, j'ai pas grand-chose. Hein. Voyez. Alors bien sûr qu'on va pas critiquer Jésus, parce que c'est Jésus. Mais critiquer le frère, critiquer la sœur, ça, c'est à la portée de la langue, plus facilement. Alors que je pense que l'Église devrait prier pour tout ce groupe-là qui se tient là, parce qu'il y a des combats spirituels. C'est pas évident, c'est pas simple. Et ça ferait drôle si un jour il n'y avait plus personne. Parce qu'à force de, vous savez, à force de avec la langue, vous pouvez tuer quelqu'un, mais vraiment. Hein. Bah oui, mais s'il n'y a que des morts, on mettra un CD de louange. Hein, ça se fait dans certaines églises. On mettra un CD de louange et on chantera sur le CD. J'imagine le grand conflit pour trouver le bon CD qui va plaire à tout le monde. Bon, Seigneur, garde-nous. Mais voilà l'abnégation. Savoir mettre sa vie un petit peu en parenthèse pour le bien de l'Église. Vous savez, il y a des services dans l'Église, on embauche. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Des besoins. Là, j'ai vu quelqu'un a coupé la haie. C'est bien coupé. C'est toi, non? Qui a coupé la haie? Quelqu'un qui aime l'Église. J'imagine que ce quelqu'un a de l'âge. Et si on mettait notre jeunesse, votre jeunesse, hein, 30 ans, 40 ans, c'est jeune 40 ans, hein? 45 c'est jeune, 50 c'est jeune. Au service de l'œuvre de Dieu. Tu vis pour toi ou tu vis pour Dieu? Ce matin, il y a une dose spirituelle. Tu n'es plus attaché au corps, tu es en train de mourir. Tu n'es plus attaché au corps, tu es une branche qui est tombée, tu vas mourir. Reviens à Dieu, reviens au corps et la sève à nouveau. Vous savez, Jésus a donné sa vie parce qu'il aimait l'Église. Elle n'existait pas encore, mais il la voyait déjà. La voyez? Si on pouvait voir que l'Église pourrait se porter mieux si on s'y consacrait un peu plus, on aurait plus le sens de l'abnégation. Amen. C'est bien, pasteur, ce que tu as dit. C'est bien. Je ne vais pas aller plus loin, mais le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards, parce qu'il est déjà dans votre cœur. Et la volonté du Père, à cause du sacrifice de Jésus, a été de vous envoyer le Saint-Esprit pour que ce royaume grandisse. grandissent, grandissent. En obéissance, parfois en soumission, jusqu'à l'abnégation. Mais c'est le chemin. Et il n'y a pas d'autre chemin que de faire la volonté du Père qu'en passant par ça. Parce que la volonté de Dieu n'ira pas toujours et forcément dans votre sens. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour Dieu. Saint-Esprit, apprends-moi l'obéissance, la soumission et l'abnégation. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons.